Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de 48FM.
Emmène-moi dans les gorges du Tarn. Emmène-moi dans les gorges du Tarn. Emmène-moi dans les gorges du Tarn. Emmène-moi dans les gorges du Tarn.
Ce matin, avec Julia, nous avons décidé de faire un tour dans le charmant village d'Ispagnac, aux portes des Cévennes, pour aller à la rencontre des artisans et personnalités de ce village lozérien. Dès notre arrivée, nous avons été accueillis par Brigitte Donadieu, adjointe à la municipalité d'Ispagnac, en charge de la culture et du tourisme, qui a été notre guide durant notre séjour.
Brigitte Donadieu, qui est donc adjointe à la ville de Ispagnac, en charge de la culture et du tourisme.
Oui, tout à fait. La ville, plutôt le beau village d'Ispagnac.
Alors justement, le beau village d'Ispagnac, qu'est-ce qu'on peut faire au beau village d'Ispagnac ?
Alors, on peut faire des tas de choses. L'été, il n'y a qu'à voir aujourd'hui la population assez nombreuse, à la fois de gens d'Ispagnac, de familles de gens qui habitaient autrefois Ispagnac, et puis aussi de touristes. Donc aujourd'hui, c'est jour de marché. Nous avons pratiquement tous les jours des animations le soir. Hier soir, par exemple, pour vous donner une idée, nous avions un film grâce à la CCAS. On a un petit camp d'EDF dans le village. Et grâce à ça, nous avons des spectacles de très belle qualité. Donc hier soir, c'était l'Étoile d'Alger, un très beau film. Et puis, nous avions aussi un petit orchestre sur la place grâce à la PAVI, donc l'association pour l'animation du village d'Ispagnac, qui tous les deux soirs à peu près fait des spectacles. En dehors des spectacles, de la convivialité que nous pouvons avoir sur cette très belle place qui a gardé son caractère à la fois rural et très confortable, on peut également faire des tas de loisirs, donc on a beaucoup de chemins de randonnée. Vous avez d'ailleurs sur la place l'office de tourisme qui vous propose, sur toute la communauté de communes, puisqu'aujourd'hui l'organisation territoriale a un petit peu changé, vous pouvez aller à Florac, à Meruès, sur le Cosméjean et faire des tas de randonnées à pied, en VTT, voilà, tout un potentiel très important.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le fait que Ispagnac soit un peu le jardin de Lozère ?
Ah bon, alors ça, c'est une appellation. Ispagnac a la réputation d'avoir un microclimat. Donc c'est vrai que déjà, naturellement, on se trouve un peu dans un écrin. C'est du côté du sud de Lozère. Il y a le Tarn qui amène une irrigation naturelle. Et donc, au fil des ans, Ispagnac a gagné cette réputation de jardin de la Lozère. Les gens avaient, toutes les familles avaient à la fois du maraîchage au bord de la rivière, mais aussi de la vigne, des amandiers, des pruniers, des abricotiers, des pêchers de vigne. Et tout ça, voilà, a conféré à avoir cette belle réputation de jardin de la Lozère.
C'est des choses qui sont toujours d'actualité. Il y a toujours des amandiers, des vignerons, etc.
Alors, plus ou moins, évidemment, puisqu'aujourd'hui, nous avons un GAEC, le GAEC Paulé, qui cultive et qui vit du maraîchage et qui vend ses produits deux, trois fois par semaine. Nous avons des vignerons qui sont venus d'ailleurs, deux familles de vignerons qui ont replanté de la vigne avec de très belles formations, le domaine de Gabali et le domaine, j'oublie l'autre, ça, de Cabridel, merci. Et pour le reste, alors c'est vrai que quand on se promène à travers les chemins, les bancelles, on voit encore des amandiers, des abricotiers sauvages, beaucoup de pruniers. Voilà, les choses changent, mais ce fond de vallée luxuriante, confortable, chaleureuse, reste tout à fait dans le paysage d'aujourd'hui.
Est-ce que dans le paysage d'Ispagnac, on retrouve déjà ces terrasses en pierre sèche qui sont un peu caractéristiques des Cévennes ?
Oui, alors Ispagnac est au carrefour de trois roches. Donc nous sommes à la fois dans les gorges du Tarn avec le calcaire, en confins du mont Lozère, avec sur la commune des hameaux qui ont du granit, du schiste pour la partie cévenole sur les petits hameaux un peu plus loin vers Florac. Et puis, donc on retrouve... Alors les bancelles, évidemment, ils sont en relation avec le paysage. Hein. Mais nous avons, par exemple, toutes les vignes qui sont aujourd'hui, que vous pouvez voir en vous promenant, elles sont faites en bancelles aussi.
La population hivernale, on va dire, on est à peu près à combien d'habitants sur Ispagnac ?
800.
Oui.
On est à peu près 800. Au dernier recensement, c'était ça. Maintenant, c'est avec les hameaux, les villages.
Oui, on a 15 hameaux autour d'Ispagnac, sur le Cos, Mont-Lozère, question. Mais voilà, oui, ça fait quand même un bon petit groupe humain. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est que les commerces restent ouverts. Ça change tout. On a la chance d'avoir des cafés, des restaurants, des épiceries, boucheries. Et ça, c'est vrai
pharmacie,
que c'est la vie.
Les docteurs. En fait. On a une trame suffisante pour rester toute l'année sans avoir trop de déplacements. On a tout ce qu'on veut. On a tout sur place. Ça, c'est important. Surtout pour ceux qui viennent se retirer, prendre par exemple leur retraite. D'avoir tous les commerces, ça facilite la vie.
C'est vrai qu'il y a des visites, une pointe dans les gorges du Tarn au moment de la saison touristique. Oui. Et heureusement, parce que c'est vrai que ça permet à nous tous de rester ici. Voilà, c'est une plus-value intéressante. Moi, je dirais quand même que globalement, les gens sont très contents. Et même Ispagnac voit de nouvelles populations qui travaillent à Mende, qui travaillent à Florac et qui s'installent ici. Parce que les commerces sont ouverts toute l'année et qu'il y a une vraie vie, comme Gisèle le soulignait, une vraie vie sociale, une rencontre, des petits groupes et même une interférence de génération. On est quand même aussi très enviés à cause des animations, parce que ça, c'est une volonté de la commune et de l'association d'animation du Vallon d'Ispagnac, cette volonté d'animer ce village et que, de fait, sur la place, pratiquement tous les deux jours, voire même parfois tous les jours, il y a des animations, ce qui fait que c'est un lieu de rassemblement. Et pour nous tous, c'est très important. C'est ce qui crée ce fameux lien dont parlait Gisèle et qui donne cette vie, cette amitié, cette joie de vivre un peu. Hein.
Et au détour de la place Jules Lager, où le monde commence à arriver, nous avons eu l'occasion de discuter avec le maire Michel Vieilledin qui nous a parlé de sa vision de son village.
Monsieur le maire, on a eu la chance de rencontrer ce matin plusieurs artisans qui sont présents sur ce marché, des personnalités de la vie hispaniacoise. On nous a parlé de patrimoine, on nous a parlé d'agriculture. Quel est pour vous le point fort de ce village ?
Alors le point fort de ce village, c'est que je le considère, c'est une appellation que c'est un petit peu moi qui ai inventée, mais qui en fait est réelle, c'est qu'on est un bourg-centre. Bourg-centre, d'après la loi, d'après les textes, ce sont les anciens chefs de canton, chefs-lieux de canton. Hispaniacs, nous ne sommes pas un ancien chef-lieu de canton, mais nous sommes malgré tout bourg-centre. Pourquoi ? Parce que nous avons la chance. Nous avons fait le nécessaire pour qu'il y ait pratiquement tous les services sur le village. C'est-à-dire que, d'abord d'une, les commerces sont ouverts toute l'année, tous. Les artisans travaillent toute l'année. Et nous avons un centre de soins, nous avons médecins, dentistes, enfin tous les kinés, deux coiffeurs, et donc, par exemple, les gens des gorges viennent faire les courses à Ispagnac. Ils ne vont pas chez Florac, ils s'arrêtent à Ispagnac parce que tout est ouvert. Ils viennent chez le coiffeur ici. Les gens du COS viennent aussi pour les petites courses, je dis pas pour les... viennent aussi à Ispagnac, que nous avons une supérette qui marche très bien. Et donc, en plus de tout ça, donc, s'y rajoutent toutes les animations culturelles qui sont quand même très importantes au niveau du village. Il y a une vie associative très, très, très riche et avec des animations tout au long de l'année de différents types, sportives, culturelles. Et donc, c'est tout cet ensemble qui me fait appeler Ispagnac bourg-centre parce qu'il se passe souvent quelque chose à Ispagnac. Voilà.
Et que serait un centre-bourg sans ses habitants ? Nous avons donc rencontré Gisèle, habitante indispensable d'Ispagnac, qui nous a parlé de son village et de l'ambiance qui y règne et qui lui tient à cœur.
Et alors pour vous, c'est quoi le gros point fort de Ispagnac ? Soit en animation, soit... qu'est-ce qui vous touche le plus à Ispagnac ?
Comment ? J'ai participé dans mes belles années et maintenant, j'apprécie parce que ces animations, ce qu'on a lancé il y a bientôt 30 ans, ça continue. Les traditions, c'est la fête votive. C'est un point fort. Et en fait, c'est aussi un moyen de rencontre, d'échange. Les familles se retrouvent, c'est la fête. On se retrouve à la fête. Et ensuite, maintenant, de bientôt 10 ans, on a le festival des voix d'Hispaniac, dans l'église d'Hispaniac. Ça, c'est un autre grand classique. C'est Laurent Boutonnet qui organise ça. Et c'est merveilleux.
Vous allez me répondre que oui, mais c'est un village qui est accueillant. C'est un village où on se sent bien quand on arrive.
Ben écoutez, je le souhaite, mais de toute façon, nous avons besoin des touristes. On aime les gens, parce que sans eux, on n'aurait pas évolué. Et c'est un village qui nous a... le tourisme nous apporte beaucoup. Et puis nous, on aime cette dynamique. On a une chance inouïe avec notre rivière. Malgré tout, c'est un point fort. Les gens passent une belle matinée le matin, mais ils vont tous au Tarn. Cette rivière, wow, c'est un bonheur, qu'est-ce que vous voulez. C'est très beau, Hispaniac, voilà. Il n'y a pas d'autre mot, on y trouve tout. Je pense qu'à tout âge, tout le monde a son groupe. Bon, le village, on ne peut pas rester. Celui qui sort, il s'en sort. Mais celui qui reste chez lui, les hivers sont longs. Mais si on veut sortir, il y a toujours quelque chose à faire à Hispaniac. On a une trame suffisante pour rester toute l'année sans avoir trop de déplacements. On a tout ce qu'on veut, on a tout sur place. Ça, c'est important. Surtout pour ceux qui viennent se retirer, prendre par exemple leur retraite. D'avoir tous les commerces, ça facilite la vie. C'est super, quoi.
Si nous avons eu l'occasion de rencontrer Gisèle, c'est parce qu'aujourd'hui sur Hispaniac, c'est jour de marché. Durant l'été, chaque mardi et samedi se tient un marché artisanal sur la place centrale du village de 8h à 13h. Nous pouvons y retrouver les vendeurs de légumes de la GAEC d'Hispaniac, des charcutiers venus d'Aveyron, les tisanes, aromates et autres sirops des herbes et arômes de Lozère, Charlotte Fayet et ses poteries d'art, un fromager marvejolé ou encore des vins locaux avec le domaine de Cabridel et de Gabali. Nous avons pu en rencontrer certains. On les écoute nous parler de leurs produits.
Merci, bonne journée, au revoir.
Nous sommes avec Martine qui donc travaille au GAEC Paul et Frères à Hispaniac. Martine, vous faites partie du réseau Bienvenue à la Ferme. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Bienvenue à la Ferme, c'est un réseau avec la Chambre d'agriculture. Voilà, donc c'est un logo que maintenant les gens connaissent bien et qui instaure une confiance entre les agriculteurs et nos clients.
Voilà. Donc ça, c'est pour le consommateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une manière de travailler?
Oui, c'est une manière de travailler, un état d'esprit, voilà, un petit gage de qualité, voilà, de confiance.
Alors, je vois que vous produisez des fruits et légumes, mais vous faites aussi de la transformation.
On fait un petit peu de transformation avec nos fruits, des jus de pommes et je fais également des sirops de fraises.
Des confitures?
Des confitures, oui, avec nos fruits et avec du cynorhodon que je ramasse à l'automne, voilà, que je transforme en hiver après.
Vous êtes ouvert toute l'année?
C'est un peu variable, ça dépend de notre production. L'an dernier, on a ouvert toute l'année. Bon, en hiver, c'était le samedi uniquement ici et sur le marché de Mende. Voilà, c'est un peu variable.
Donc voilà, là, sur les saucissons, on fera entier-moitié, le jambon de Mende aussi, 24 mois.
Ok.
Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
Eh bien, Geoffrey Malgoire, je suis exposant sur le marché d'Hispaniac. Donc, je vends du fromage, de la ligot, le mardi et le samedi sur le marché.
Alors, quel type de fromage on retrouve ici? C'est fromage local?
On retrouve des fromages donc locaux, du chèvre, du brebis, de la vache. Donc, on est affineur sur Marvejol. Et donc, on est un peu partout en Lozère. Donc, Florac, Hispaniac, Meruès, également le Pont de Montvert et Marvejol.
Et donc, c'est du lait du coin, j'imagine?
Oui, on est sur du lait des Cévennes pour le chèvre, du brebis pour le Cosméjean et Sauveterre, et sur l'Aubrac avec du Laguiole ou plein de fromages locaux.
Alors, c'est quoi votre fromage préféré?
Mon fromage préféré, le chèvre des Cévennes, bien crémeux.
Bonjour, Elisabeth Boyer. Donc, vous travaillez au domaine de Cabridel, c'est ça?
Oui, bonjour. Oui, donc je suis vigneronne sur le domaine des Cabridel avec Bertrand Servier, mon associé.
Donc vous êtes implanté dans les gorges du Tarn depuis 2006, hein, dans le cadre du projet de relance de la vigne dans ce site. Comment s'est passée votre installation? Est-ce que c'était un travail de longue haleine?
Oui, bah, ça a été un travail assez, assez dur, assez difficile, mais un très beau projet. Donc ça a été, on a planté 5 hectares sur 3 ans. Donc 2006, 2007, 2008, et on a commencé à récolter les premiers raisins en 2008 et à tirer un revenu en 2010.
Bon, c'est justement que les conditions à respecter sont nombreuses pour maintenir en vie ces cultures. Je suppose que du coup le choix de l'emplacement est primordial.
Oui, après sur les gorges, on a un terroir qui est assez privilégié, hein. Très beau sol, microclimat particulièrement favorable et après c'est notre travail, hein, donc voilà, on essaie de respecter tout ça et de mettre en valeur les richesses du terroir.
Donc combien de personnes pour tenir ce domaine?
Ah ben nous on est que tous les deux, hein, que Bertrand et moi-même, et de temps en temps on prend un jeune pour nous aider quand on au printemps surtout, parce qu'on a beaucoup de travail au printemps. Quand la vigne pousse, il faut être partout, et à la vigne et à la commercialisation, donc voilà, on a besoin un peu d'une personne qui nous aide.
Donc 5 hectares pour produire du vin, c'est quel type de vin qu'on retrouve chez vous? Donc il y a du blanc, du rouge, qu'est-ce qu'on a?
Alors, on fait blanc, rosé, rouge, Carthagène. Mais par contre, on a des vins qui sont totalement atypiques et qu'il faut goûter parce qu'ils ne ressemblent à aucun autre.
Voilà. C'est des vins qu'on boit avec quoi ou dans quelles circonstances?
Alors, nous, par exemple, on a deux vins blancs secs. On a un pur Sauvignon et un pur Chardonnay. Deux blancs secs qui sont complètement différents. Le Chardonnay a été vinifié en barrique avec un élevage sur lit de 1 an. Donc c'est un Chardonnay qui a beaucoup de matière, beaucoup de rondeur, qu'on va pouvoir associer sur les poissons, sur des viandes blanches, sur du fromage de chèvre ou de brebis. On a un superbe accord. Le Sauvignon, lui, c'est un vin qui est très fruité, qui s'accordera bien... déjà en apéritif, et puis sur les une truite de Lozère par exemple, ça ira très bien. De même que sur les Pélardons, ça va aussi très bien. Donc on a tous nos vins, en fait. Nous, on a une gamme de 8 produits, et les 8 produits sont complètement différents, avec des accords aussi très différents. Donc après, ça, c'est une question d'utilisation et de goût personnel.
Il me semble que vous avez un peu tout quitté pour venir vous installer à Espagnac. Est-ce que vous avez trouvé un peu ce que vous cherchiez? Est-ce que la vie à Espagnac, c'est chouette?
Ah oui, c'est une vie, on a une qualité de vie ici qui est assez exceptionnelle, hein. Oui, non, c'est très agréable. Après, on s'épanouit dans ce qu'on fait, donc c'est plutôt positif.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, donc là on vient de faire une dégustation, donc du vin Ami Coteau de 2014.
Ben oui, donc la cuvée Ami Coteau 2014 est une cuvée qui est faite avec 3 cépages qu'on a en Lozère, la Syrah, le Marcelin et le Pinot Noir. C'est une cuvée qui est vieillie pendant 12 mois en fût de chêne, qui est mise en bouteille pendant 1 an avant d'être vendue. Donc ce type d'arôme, on est beaucoup sur les fruits rouges, avec un côté fumé un petit peu que ramène à la barrique. Donc c'est un vin qui est assez léger, qui n'est pas très fort en tanin. Hein. Il passe un petit peu partout. Il est à boire sur des viandes, sur un agneau de Lozère, sur des fromages aussi, sur du bœuf, sur un magret de canard. Voilà, c'est un vin qui peut être bu tout de suite, mais qui peut être gardé aussi quelques années.
Une autre question qui n'a pas directement à voir avec ce vin-là, est-ce qu'il y a des restaurateurs, est-ce qu'il y a des endroits où on peut boire votre vin, voilà, dans le coin ou ailleurs?
Oui, heureusement, hein, on sert une quarantaine de restaurants sur la Lozère. Et en fait, ce sont des bons ambassadeurs pour notre vin, parce qu'on a beaucoup de retours de clients après l'avoir bu au restaurant.
Est-ce que vous pouvez nous en citer 1, 2, 3?
Ben oui, on peut vous en citer. Donc, Sud Lozère, J'aime beaucoup citer l'Adonis à Florac, la Lozérette à Cocurès, qui sont des restaurants qui, je trouve, mettent en avant les produits de la Lozère. Après, il y en a tout plein. Il y a Cyril Atrazic à Aumont-Aubrac, à l'Auberge de la Tour à Marchastel. Je ne peux pas tous les citer, mais il y en a plein. J'oublie pas les autres.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Comme nous le disait Brigitte Donadieu dans le début de ce reportage, Hispaniac, terre d'agriculture, mais également Hispaniac, terre d'histoire. En effet, le patrimoine bâti est un des points forts de ce village. Nous pourrions parler de ces remparts bâtis au cours de la guerre de Cent Ans pour se défendre des pillards et qui restent toujours visibles pour une partie derrière la mairie. Nous pourrions également évoquer les différentes ruelles marquées par le temps et l'histoire, le four à pain qui avait un rôle central dans le village par le passé, ou bien encore le couvent des Ursulines. Mais selon l'historien et guide Philippe Chambon, l'élément le plus marquant, architecturalement parlant, de ce village reste son église, qui selon lui est la plus remarquable des Cévennes. Nous vous laissons profiter d'un extrait de la visite de ce monument. Si vous souhaitez une version complète, rendez-vous lundi 14 ou mardi 22 à 10h devant l'office de tourisme d'Hispaniac.
Elle date en grande partie du XIIe siècle, même si elle a été profondément remaniée au moment des guerres de religion. Et cette église faisait partie au départ des remparts de la ville. C'est pour ça que son entrée est assez fortifié. Vous voyez cette grande arcade qui domine le porche. Alors souvent, en voyant la fente que vous avez en haut, on me dit mais il y avait sans doute une herse. Non, c'est pas possible, parce que ça aurait été vraiment une herse, il aurait fallu 20 hommes pour la manœuvrer. Vraisemblablement, là-haut, c'est ce qu'on appelle un assommoir, c'est-à-dire une sorte de fente qui était destinée à jeter des projectiles sur les éventuels assaillants de la porte. Alors, la façade a été remaniée à plusieurs reprises. Déjà, au XVIIe siècle, lorsqu'on a réparé l'église après les guerres de religion, on a percé les deux fenêtres du rez-de-chaussée. Dans une église fortifiée, il n'y avait pas de fenêtre au rez-de-chaussée. Ça aurait été trop facile, un point de faiblesse. De même, le porche a été mutilé. Vous voyez qu'on voit des traces de colonnes ici en bas. Il y avait des colonnettes et ce qu'on appelle des archivoltes, c'est-à-dire des arceaux qui étaient en forme de boudin à l'intérieur de l'arcade qui est là. Et enfin, au XVIIe siècle, on a repercé la rose qui est au-dessus, qui à l'origine n'existait pas. Il y avait sans doute une fenêtre romane. Et cette rose, elle a été faite par le même architecte que celui qui a réalisé à la même époque la grande rose de la cathédrale de Mende. C'était un architecte qui s'appelait Pierre de Lèveville, et donc il a travaillé à Hispaniac et à Mende. Et puis Pierre de Lèveville, il a une carrière assez importante, et il a terminé sa carrière, figurez-vous, c'est lui qui a achevé la construction de la cathédrale de Palma de Mallorca aux îles Baléares. Donc vous voyez, il est allé très loin d'ici. Voilà, donc cette rose est de très belle facture, de style gothique flamboyant. Autre chose, la porte date du XVIIe siècle, là elle est tout à fait intéressante. C'est une porte qu'on dit que c'est une porte Aspect, alors A-S-P-E tout simplement, c'est parce qu'il y a des clous, les petits clous en forme de pointe de diamant qu'il y a dessus sont faits en fait pour détourner les coups de hache éventuels contre la porte si on avait voulu s'y attaquer. Les aspes, donc les petits clous, ébrèchent le taillant de la hache et permettaient de se défendre. Et voilà. Alors on va entrer dans l'église. Alors on est un peu dans l'obscurité malheureusement, mais vous savez, c'est voulu dans les églises romanes, c'est toujours la pénombre. Vous savez qu'il y a trois grands styles d'églises, les églises romanes, les églises gothiques et les églises baroques. Et l'église romane, les plus anciennes, sont souvent comme ça des églises où on entretient une certaine obscurité. Pourquoi ? Bien, c'était pour favoriser, on dit que c'est l'écrin pour la relation entre l'homme et Dieu, donc un endroit intime, un endroit où on peut se recueillir. Les églises gothiques qui sont beaucoup plus lumineuses, très hautes, très élancées, on dit que ce sont des églises qui sont bâties à la gloire de Dieu. Et les églises baroques, qui sont toujours très décorées, ruisselantes d'or et tout, on dit que ce sont des églises bâties à la gloire de l'Église. Donc, vous voyez la différence entre les trois styles. Alors, l'église d'Hispaniac est une église monastique. Elle est donc bâtie sur le plan basilical, avec une grande nef et des nefs latérales. Alors, il faut savoir que ce genre d'église au Moyen-Âge est très typique des églises monastiques. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, la nef centrale était généralement réservée au clerc, aux moines, et les nefs latérales accueillaient les fidèles, accueillaient le commun des mortels. C'est pour ça qu'il y avait cette distinction entre les deux. Et un peu plus loin, je vous reparlerai un peu plus profondément. Alors, cette église-là, eh bien, elle a donc une voûte en berceau brisé. Les voûtes ont été sans doute reprises en grande partie au XVIIe siècle après les ravages. Il faut savoir que le prieuré d'Ispagnac a subi de nombreux outrages, notamment au XVIe siècle après l'adhésion d'une grande partie de la région à la réforme. Florac était resté protestant alors qu'Ispagnac était resté catholique. Et donc les troupes protestantes ont attaqué à plusieurs reprises le prieuré de Florac, d'Ispagnac, en 1562, en 1568 et surtout en 1580. Là, le prieuré a été complètement ravagé. Et toute la partie sud de l'église s'est effondrée. Et vous voyez ici les murs ont conservé leur crépi, tout simplement parce que c'est des murs qui ont été rebâtis au XVIIe siècle et de façon très sommaire. Vous voyez donc ici le mur, et la voûte aussi n'est pas très, très, de très belle facture. Par contre, regardez de ce côté-ci, vous avez encore les grands arceaux de ce qu'on appelle les arcs de décharge dans l'épaisseur du mur, ici, qui permettaient d'alléger l'épaisseur du mur, et tout en gardant une certaine esthétique, on retrouve les colonnes avec les chapiteaux. Alors, de ce côté-ci, il y a aussi des colonnes, mais vraisemblablement, je pense qu'on a récupéré ces colonnes dans les ruines et on les a réutilisées. Et puis, si on regarde ici aussi, là, vous avez les colonnes d'origine romane avec les chapiteaux ronds, et de l'autre côté, ce ne sont plus des colonnes, mais des pilastres, et là, on sent déjà l'arrivée du style classique du XVIIe siècle. Donc, en fait, toute la partie sud de l'église a été reconstruite après les guerres de religion. Voilà.
Alors, Brigitte, il y a une nouvelle application pour smartphone qui a été mise en place pour la visite de l'église d'Ispagnac. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ?
Oui, alors, dans le cadre des journées du patrimoine de 2016, la DRAC, à l'époque Languedoc-Roussillon, a équipé l'église d'Ispagnac d'un dispositif pour QR code pour les smartphones. Donc les visiteurs ont le choix aujourd'hui, soit ils écoutent la visite guidée ancienne, ou soit ils mettent leur smartphone devant cette application. On est devant un tout petit écran, il y a un QR code, ça enregistre et directement on peut avoir des compléments d'informations sur cette église. Voilà, c'est superbe. Je pense qu'en Lozère, on est peut-être les seuls, hein. Et en tout cas, c'est une nouvelle façon de découvrir l'histoire de cette église et de découvrir aussi le patrimoine. Il y aura d'autres émules dans le département, j'en doute pas.
Au-delà des bâtiments et autres monuments, Ispagnac, les Cévennes et la Lozère en général possèdent un patrimoine immatériel assez marqué. Parmi ceux-là, l'art de la vannerie. Pour en savoir plus, nous avons interviewé Chantal Combes.
Alors, je m'appelle Chantal, j'organise le marché vannier depuis plus de 10 ans. Et je suis élève dans un atelier de vannerie l'hiver ici à Ispagnac. Et l'été, donc, cette manifestation est organisée pour faire connaître aux gens l'art de la vannerie.
Alors, mais justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est l'art de la vannerie ? En plus, il me semble qu'il y a donc la vannerie dite de pays, qui est la vannerie traditionnelle en arceau qui est pratiquée en Lozère. Elle répond à des règles particulières. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Alors, la vannerie sur arceau, c'est celle que pratiquaient, si vous voulez, les papés. Parce qu'ils avaient l'osier sous la main, ils avaient le châtaignier, et avec ça, ils faisaient la carcasse et le tressage. Donc c'est très utilitaire au départ. C'est le panier pour les patates, pour les courses, pour le fourrage, enfin. Et ensuite, donc c'était une tradition ici. Alors comme je faisais partie d'un comité d'animation, j'ai eu l'idée un jour de faire venir des vanniers qui ont fait une démonstration. Et là, j'ai le coup de foudre. Voilà. Donc, c'est venu comme ça. Donc, c'est des passionnés, en fait. Puisque ce sont des amateurs et ils n'en vivent pas. Ils le font par plaisir.
Alors, il y a des périodes bien précises pour la pratique de la vannerie.
Oui, oui. La période, c'est l'hiver, quand la sève est descendue. On ramasse les matériaux à ce moment-là. Et dès mars, c'est la reprise de la végétation. On le voit même sur nos osiers qui prennent des feuilles et qui deviennent cassants.
Donc, j'ai lu que la vannerie était une marque, marquait une identité régionale, peut-être en rapport avec les différents matériaux
avec
qui sont
les
utilisés.
Matériaux et ensuite avec les formes. on arrive à reconnaître, à savoir qui a fait le panier, parce que chaque vanier a sa propre forme, parce qu'ils les travaillent souvent à la main, ils n'ont pas de gabarit, donc voilà, il y a des petits paniers, des grands paniers, il y en a des ovales, enfin il y a un peu de tout, chacun sa technique.
Il me semble qu'il y a quand même des spécialités lozériennes, comme le bertoul, la pagnette.
Alors le bertoul, c'est le panier Cévenol, il est tout en châtaignier. Ensuite, ici, c'est plutôt la petite corbeille à pain qui est référencée comme étant la spécialité de la Lozère.
Une pratique un peu ancestrale dans le coin, mais c'est quelque chose finalement qui perdure, c'est un savoir-faire qui revient au goût du jour avec différents clubs où on peut pratiquer voilà, toute l'année.
C'est le rôle des clubs de maintenir cet artisanat parce que les papes, en fait les papés faisaient de la vannerie l'hiver, c'était un travail pour eux, c'était une occupation, il fallait qu'ils s'occupent, donc on faisait de la vannerie. Et puis, voilà, de là, nous, on essaie de... Tout le monde a eu son papé qui faisait ça, ça rappelle des choses. Et on dit, tiens, ben maintenant, je vais essayer de le refaire. Et puis, ça marche. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui aiment bien tresser.
Vous avez des jeunes ?
Oui, on a des jeunes. À notre atelier, on a des jeunes, on a des dames. Très peu de messieurs, contrairement à avant, où c'était que les hommes qui tressaient.
Demain, vous disiez qu'il y avait donc la 12e ou la 13e édition de votre marché vanier. Donc, il y aura des exposants, mais il y a également des stages qui sont proposés.
Alors, il y a des exposants qui font un peu de démonstration. Et ça, c'est bien parce que souvent, les gens s'arrêtent et discutent avec le vanier. Il y a aussi des ateliers d'initiation. Alors, cette année, c'est apprendre à tresser la lavande, apprendre l'art du paillassou, c'est-à-dire, c'est un boudin. On part d'un boudin de paille qu'on maintient avec des tresses de ronces. Et puis, il y a un atelier enfant aussi. Alors, qui vont faire un dessous de plat, mais avec des... On appelle ça de la vannerie sauvage, la clématite, le lierre. Voilà, des matériaux qui sont faciles à travailler par les enfants. Parce que l'osier exige énormément de force. Pour le travail.
Et alors, est-ce qu'ils peuvent encore s'inscrire ou est-ce qu'ils viennent directement demain matin ?
Alors ça, ce qui a lieu là, ces ateliers qui ont lieu sur le marché, c'est inscription sur place. Alors qu'aujourd'hui, il y a un atelier, les gens repartent avec leur panier, mais c'est payant et c'est toute la journée.
Et donc demain, les lieux de rendez-vous, c'est tout ?
Les lieux de rendez-vous, donc c'est la place Bragé, la place du couvent, qui se trouve à l'intérieur d'Ispagnac, à l'intérieur du village.
Et pour rester dans le domaine des arts, nous vous proposons d'écouter Laurent Boutonnet, président de l'association proposant le festival des voix d'Ispagnac, consacré au lyrique, qui aura lieu les 10 et 12 août prochains.
Alors nous sommes actuellement avec Laurent Boutonnet, qui est l'organisateur des voix d'Ispagnac.
Oui. Enfin, président de l'association Les Voix d'Ispagnac et qui organise un festival lyrique.
Le 10 et 12 août cette année.
Alors le 10 c'est plutôt une soirée jazz, blues, et le 12 c'est la grosse soirée lyrique. Cette année on a de jolis chanteurs, notamment Pauline Courtin, une soprane magnifique, et Luca Lombardo, qui est quand même le ténor en ce moment, qui joue souvent la doublure avec Roberto Alagna. C'est une exception de la voir cette année ici pour notre petite association, quoi.
Alors, comment est venue l'idée de faire un festival lyrique à Ispagnac ?
Ben écoutez, je travaillais à l'Opéra de Montpellier comme régisseur et je suis marié avec une chanteuse lyrique. Donc, on a eu l'idée, notamment avec Madame Donadieu, qui était à l'époque s'occupait de la Pavie et de l'Office de Tourisme. Et m'avait demandé de faire une petite soirée lyrique, ce qu'on avait fait, parce qu'elle était vraiment souvent présente à l'Opéra de Montpellier. Et c'est parti de là. Et si vous voulez, après, pour que ça prenne un peu plus d'ampleur, on a monté une association. C'était difficile d'avoir des financements en tant que nom propre. Donc on a créé une association qui s'appelle Les Voix d'Ispagnac.
C'est un festival qui est payant ?
Non, complètement gratuit.
Les lieux de spectacle, c'est où ? C'est en extérieur ?
C'est l'église. Ouais, l'église a une acoustique vraiment unique. Très belle acoustique, une église romane où vraiment, comme on dit souvent, la pierre chante, quoi.
Alors, c'est des artistes qu'on retrouve d'année en année ou c'est chaque année?
Oui, certains. Cette année, oui. Catherine Bourgeois est déjà venue deux fois. Mais Pauline Courtin et Luca Lombardo sont nouveaux cette année. Ou Fabienne aussi, la pianiste de l'Opéra de Marseille, était là l'année dernière.
Donc jeudi, c'est...
C'est une soirée Alfred Yellow. C'est un groupe jazz manouche, bossa nova, qui joueront sur la place du village. Et le samedi, dans l'église, le concert lyrique.
Est-ce que c'est un festival qui implique beaucoup les gens d'Ispagnac?
Oui, il y a beaucoup d'implications du village. D'ailleurs, les artistes ne vont pas à l'hôtel, sont hébergés par les habitants, ce qui est génial. Et après, oui, il y a beaucoup de bénévoles, plein d'amis qui sont en vacances ici l'été, qui donnent un coup de main.
Alors, vient de nous rejoindre Fabienne Dilandro, donc on vient d'en parler. C'est une des pianistes qui sera présente pour les Voix d'Ispagnac. Donc, bonjour Fabienne.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de vous, de votre carrière, comment vous êtes arrivée à Ispagnac aujourd'hui?
Alors, en quelques mots, ça va être un petit peu compliqué, mais on va essayer. La carrière, bah écoutez, j'ai commencé comme tout le monde par des études de piano, persuadée que je finirais concertiste, etc. Et puis le sort en a décidé autrement, à savoir que j'ai croisé un jour le chemin de chanteur lyrique et ça a été, je n'irai pas jusqu'à dire une révélation, mais en tout cas une grande découverte. Donc j'ai changé d'orientation et je suis rentrée à l'Opéra de Marseille il y a un certain temps déjà, on va dire. Voilà. Et donc, c'est un métier où on croise souvent des personnes qu'on connaît dans les endroits les plus improbables. Et donc, lors d'une séance de travail avec une chanteuse avec laquelle je travaille régulièrement et qui sera sur le concert la samedi, Catherine Bourgeois, on a évoqué l'existence du festival et des Voix d'Ispagnac. Et ben, il se trouve qu'ils avaient besoin d'un pianiste cette fois-là, ils avaient le pianiste habituel qui s'était absenté. Donc voilà, je suis venue et puis ça a été une belle rencontre à plein de niveaux et je reviens. Voilà.
Revenez, qu'est-ce que vous avez pu profiter un peu d'Ispagnac déjà la première fois?
Ah, tout à fait, parce qu'en général, j'essaie d'allier justement le professionnel et le plaisir. Professionnel étant aussi un plaisir d'ailleurs. Donc, je ne connaissais pas du tout la région, et donc pour un concert d'un jour, j'ai trouvé que c'était bien de prévoir 15 jours sur place, donc j'ai eu le temps, oui, de profiter de la région.
Qu'est-ce qui résonne le plus pour vous ici?
Bah, Ispagnac même déjà, où on se retrouve dans une ambiance qui, quand on vient de grandes villes comme Marseille, fait beaucoup de bien. C'est-à-dire, c'est calme, c'est convivial, c'est familial. Et puis, le cadre est magnifique. Le cadre est superbe, celui d'Ispagnac et celui de la région en règle générale. Voilà.
Et le public est au rendez-vous pour ce que vous avez pu en voir déjà?
Ah, tout à fait. Le concert de l'année dernière, l'église était pleine et avec un public très réactif, très, très motivé. Non, c'est très agréable.
Donc on casse un petit peu avec ce genre d'initiative, en gros, les clichés de la ruralité qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe, qui ne s'intéressent pas. Du coup, le chant lyrique, c'est vrai que on peut penser que c'est un peu élitiste, en avoir une image un peu froide comme ça, mais finalement, dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe.
Bah, de fait, l'origine de l'art lyrique, l'opéra était un art populaire à l'origine, qui est effectivement devenu quelque chose d'élitiste, mais actuellement, de toute façon, déjà, il y a un peu un retour aux sources, les initiatives à droite à gauche ont tendance à se multiplier pour ramener l'opéra justement dans un contexte différent, et effectivement c'est un cliché absolu de dire que les gens, que ce soit dans les petits villages ou enfin bref, ne s'intéressent pas au lyrique. On a toujours, moi, en dehors d'Hispania, qui m'arrive souvent de faire des récitals lyriques dans des endroits les plus improbables et les plus reculés, et on a toujours un public très intéressé. Après, évidemment, il s'agit de choisir un petit peu ce qu'on leur présente. Bon, il est clair qu'on essaie quand même de rester dans les ouvrages les plus connus et les plus... voilà, on va éviter le Stockhausen ou le... voilà, il y a quand même des choses plus porteuses que d'autres, mais ça, c'est normal.
Merci beaucoup.
De rien.
Alors, bonjour Axel, tu es donc le guitariste et chanteur de Alfred Yellow, donc le premier groupe qui jouera donc jeudi à 19h dans le cadre des Voix d'Hispania. Qu'est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que vous faites ?
Eh bien, Alfred Yellow, c'est un groupe qui a plusieurs caractéristiques. On travaille pour les danseurs, on fait du rock, on fait du blues, et comme on travaille pour les danseurs de rock et de bebop, on fait aussi évidemment du jazz, puis nous sommes tous musiciens de jazz à la base. Et là, spécialement pour cette soirée, Laurent, l'organisateur, m'a demandé de monter un programme bossa nova et jazz.
Donc c'est des reprises ou c'est des chansons de votre répertoire ?
Non, c'est de la reprise des grands standards de bossa, de la reprise de Jobim, de Baden Powell, de gens comme ça, les grands standards brésiliens, d'un côté, et de l'autre le swing. Un swing mainstream, pas un swing bebop, un swing dans le grand courant du jazz qui tend un peu vers le jazz manouche.
The one who threw a party in the county jail. The prison men were there, they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard the knocked out jailbird sing. Let's rock. Everybody, let's rock.
Autre temps fort de la vie d'Hispaniac, celle des 160 km, course de chevaux reconnue, et cela même au niveau international, car elle est la seconde plus compliquée au monde. Elle aura lieu cette année, du 7 au 10 septembre.
Nous sommes actuellement donc, au petit bar du boulodrome de Hispaniac, en compagnie de Hélène, qui est donc à La Pavie. Qu'est-ce que c'est La Pavie ?
Alors La Pavie, c'est l'association pour l'animation du ballon d'Hispaniac, qui est composée d'une équipe de bénévoles qui travaillent toute l'année pour, entre autres, la grande fête d'Hispaniac qui vient d'avoir lieu et qui, dans quelques jours, nous allons organiser les 160 km de Florac au Prémorjal, dans ce site splendide qui amène énormément de monde. Et donc nous travaillons toute l'année et nous proposons tout l'été des animations quasiment tous les soirs avec en association avec le CCAS, le Club de l'Amitié, et ce qui nous permet d'avoir une quantité de touristes sur la place et Hispania qui est de plus en plus appréciée, entre autres pour ses animations.
Alors, les 160 km, qu'est-ce que c'est comme événement ?
C'est une course mythique, c'est une course d'endurance. C'est la deuxième la plus difficile au monde, après la Tevis Cup aux États-Unis. Alors, c'est une course de légende. Elle a été montée, elle a fêté ses 40 ans l'année dernière. Et voilà, c'est vraiment mythique. Il faut dire qu'il y a un dénivelé exceptionnel. En 2011, nous avons accueilli les championnats d'Europe. Et cette course mythique aujourd'hui, notamment auprès des jeunes cavaliers, représente quelque chose qu'il faut avoir fait. Et en même temps, c'est un créneau exceptionnel sur la France. Le seul handicap que nous avons, c'est un peu l'éloignement de la Lozère par rapport aux grands axes. Sinon, c'est vrai que les paysages dans lesquels... Il faut savoir que la course, elle part d'Hispaniac, elle monte sur le Cos Méjean, elle passe au Mont Aigoual.
sur le Causse, elle redescend. 160 km dans ces paysages, c'est quelque chose de sublime.
Emmène-moi dans les gorges du Tarn. Emmène-moi dans les gorges du Tarn. Emmène-moi dans les gorges du Tarn. Emmène-moi dans les